là où se trouve la discorde, que nous bâtissions la paix, là où se trouve l'erreur, que nous proclamions la vérité. Seigneur, foyer d'amour, faites-nous brûler de charité. Là où se trouve le doute, que nous réveillions la foi. Là où se trouve la détresse, que nous ranimions l'espérance. Seigneur, foyer d'amour, faites-nous que nous sentions la joie, là où se trouvent les ténèbres, que nous répandions la lumière. Seigneur, foyer d'amour, faites-nous brûler de charité.
Alors, donc, je vais essayer de vous mettre un peu d'espérance au cœur. Alors, bon, j'ai pas la prétention de couvrir tout le sujet. C'est simplement un petit témoignage et à partir à la fois des textes, de certains textes qui sont sortis surtout à la suite du synode, qui a quand même été une expérience pas banale dans l'Église. Moi, la démarche, après, bon, qu'est-ce qu'il en... On est encore dedans, donc on ne sait pas ce que ça va donner. Et puis, j'ai aussi recueilli des témoignages de personnes en leur demandant quelle était leur espérance dans l'Église aujourd'hui. Et puis... Ben, je parlerai un petit peu de nous, la façon dont on le vit aujourd'hui. Voilà, donc ça, n'importe qui aurait pu faire la même chose. Donc j'espère qu'après, on pourra justement prendre un temps de partage. Voilà. Donc Jean-Claude nous a parlé de l'effondrement. Donc un effondrement, quand tout est par terre, on ne peut espérer qu'un renouveau et une renaissance. Et une crise peut être un bien quand elle remet en cause un système qui ne fonctionne pas de manière satisfaisante par rapport à son objectif et sa mission. Donc, avec l'Assemblée synodale, donc, qui s'est tenue à Rome en octobre, et les différentes exhortations du pape, de nombreux textes ont été publiés. Donc, je vais faire un petit tour rapide de ces textes et vous en donner quelques aspects qui m'ont paru importants. Alors, d'abord, je ne sais pas si vous avez su, il y a une lettre au peuple de Dieu qui a été publiée le 25 octobre par les membres du synode pour faire le point un petit peu de leur travail et de la manière dont ils ont travaillé. Alors, donc je vous livre quelques extraits de cette lettre au peuple de Dieu. D'abord, c'est une action de grâce. Nous rendons grâce pour cette belle et riche expérience, un long processus d'écoute et de discernement ouvert à tout le peuple de Dieu sans exclusive, afin de marcher ensemble sous la conduite de l'Esprit-Saint, disciple missionnaire à la suite du Christ Jésus. Ce fut une expérience inédite. Pour la première fois, à l'invitation du pape François, des hommes et des femmes étaient conviés, en vertu de leur baptême, à siéger à la même table pour prendre part non seulement aux délibérations, mais aussi au vote de cette assemblée du synode des évêques. Nous nous sommes mis intensément à l'écoute de la parole de Dieu et de l'expérience des autres, à l'aide de la méthode de la conversation dans l'esprit. Alors c'est une méthode qui consiste à se mettre en petits groupes où chacun a le même temps de parole et d'écoute, donc pour que la parole de tous soit entendue. Nous avons partagé humblement les richesses et les pauvretés de nos communautés sur tous les continents, en essayant de discerner ce que l'Esprit-Saint veut dire à l'Église aujourd'hui. Nous avons notamment expérimenté l'importance de favoriser les échanges réciproques entre la tradition latine et les traditions de l'Orient chrétien. Nous avons accordé une place importante au silence. Nous avons expérimenté combien la soif d'unité grandit dans la contemplation silencieuse du Christ crucifié. Car la vocation de l'Église est d'annoncer l'Évangile, mais non pas en se centrant sur elle-même, mais en se mettant au service de l'amour infini dont Dieu aime le monde. C'est ce qu'il nous dit en Saint Jean. Interrogés sur leurs attentes à l'égard de l'Église à l'occasion de ce synode, des personnes sans abri des environs de la place Saint-Pierre ont répondu l'amour. C'est la confiance qui nous donne l'audace et la liberté intérieure dont nous avons fait l'expérience, n'hésitant pas à exprimer nos convergences mais aussi nos divergences, nos désirs et nos interrogations librement et humblement. Pour progresser dans son discernement, l'Église a absolument besoin de se mettre à l'écoute de tous, en commençant par les plus pauvres. L'Église a aussi besoin d'écouter les laïcs, femmes et hommes, tous appelés à la sainteté en raison de leur vocation baptismale, les catéchistes, les jeunes, les familles, les ministres ordonnés, etc. Elle se doit également d'être attentive à celles et ceux qui ne partagent pas sa foi, mais cherchent la vérité et en qui l'Esprit est présent et agissant. Lui qui offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal. Le monde dans lequel nous vivons et que nous sommes appelés à aimer et à servir, même dans ses contradictions, exige de l'Église le renforcement des synergies dans tous les domaines de sa mission. C'est précisément le chemin de la synodalité que Dieu attend de l'Église du troisième millénaire. N'ayons pas peur de répondre à cet appel. La Vierge Marie, première en chemin, accompagne notre pèlerinage. Dans les joies et les peines, elle nous montre son Fils et nous invite à la confiance. C'est lui, Jésus, notre unique espérance. Alors, dans une homélie du 29 octobre, le pape François rappelle deux axes qui sont adorer et servir. Il est important de regarder le principe et le fondement sur lequel tout commence et recommence. Aimer. Aimer Dieu par toute notre vie et aimer notre prochain comme soi-même. Non pas nos stratégies, non pas les calculs humains, non pas les manières du monde, mais aimer Dieu et le prochain, voilà le cœur de tout. Mais comment traduire cet élan d'amour? Je vous propose deux verbes, deux mouvements du cœur sur lesquels je voudrais réfléchir, adorer et servir. Aimer Dieu se fait donc à travers l'adoration et le service. Le premier verbe, adorer. Aimer, c'est adorer. L'adoration est la première réponse que nous pouvons donner à l'amour gratuit, à l'amour surprenant de Dieu. L'émerveillement de l'adoration est essentiel dans l'Église, surtout à notre époque, où nous avons perdu l'habitude de l'adoration. Adorer, c'est en effet reconnaître, dans la foi, que Dieu seul est Seigneur et que notre vie, le chemin de l'Église, le destin de l'histoire, dépendent de la tendresse de son amour. Il est le sens de la vie. Le second verbe après adorer, le second verbe est servir. Aimer, c'est servir. C'est le grand commandement. Le Christ lie Dieu et le prochain pour qu'ils ne soient jamais séparés. Il n'existe pas d'expérience religieuse qui soit sourde aux cris du monde. Une véritable expérience religieuse. Il n'y a pas d'amour de Dieu sans implication dans le soin du prochain, sous peine de pharisaïsme. Nous pouvons en effet avoir beaucoup de belles idées pour réformer l'Église, mais rappelons-nous, adorer Dieu et aimer nos frères de son amour, voilà la grande et durable réforme. Être une Église adoratrice et une Église du service qui lave les pieds de l'humanité blessée, qui accompagne le chemin des personnes fragiles, faibles et laissées pour compte, qui va tendrement à la rencontre des plus pauvres, c'est ce que Dieu a ordonné. Telle est, frères et sœurs, l'Église dont nous sommes appelés à rêver. Une Église au service de tous, au service des derniers. Une Église qui n'exige jamais un bulletin de bonne conduite, mais qui accueille, sert, aime et pardonne. Une Église aux portes ouvertes qui soit un port de miséricorde. Et là, il cite Saint Jean Chrysostome. L'homme miséricordieux est un port pour ceux qui sont dans le besoin. Le port accueille et sauve du danger tous les naufragés. Qu'ils soient méchants, bons, ou qu'ils soient ce qu'ils sont. Le port les abrite dans son anse. Toi aussi, donc, quand tu verras à terre un homme qui a fait naufrage dans la pauvreté, ne le juge pas. Ne lui demande pas compte de sa conduite, mais délivre-le du malheur. C'est dans le discours sur le pauvre Lazare. Frères, donc le pape continue, frères et sœurs, je pense à ceux qui sont victimes des atrocités de la guerre, aux souffrances des migrants, à la douleur cachée de ceux qui se retrouvent seuls et dans la pauvreté, à ceux qui sont écrasés par les fardeaux de la vie, à ceux qui n'ont plus de larmes, à ceux qui n'ont plus de voix. Frères et sœurs, pour tout ce que vous avez fait au sein du synode et continuez à faire, je vous dis merci. Merci pour le chemin que nous avons parcouru ensemble, pour l'écoute et le dialogue. Je voudrais formuler un vœu pour nous tous, que nous puissions grandir dans l'adoration de Dieu et le service du prochain. Adorer et servir. Que le Seigneur nous accompagne et en avant, dans la joie. Ça rappelle le Yala de Sœur Emmanuel. Après, il y a un autre texte que je vous invite aussi à aller voir, que je ne vais pas développer là, qui a été publié à l'occasion des 150 ans de la naissance de Sainte Thérèse de l'enfant Jésus. Donc vous pouvez trouver ces textes facilement sur le site du Vatican. Donc je ne vais pas... Et donc cette exhortation apostolique, elle est vraiment axée sur la confiance. C'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. C'est le sens de cette encyclique. Alors après, je vais juste vous énumérer les conclusions du synode par thème simplement. Parce que ce sont les différents thèmes qui ont été traités et qui vont continuer d'être travaillés pour la prochaine assemblée synodale qui aura lieu en 2024 et qui aboutiront à des décisions qui seront prises dans ces thèmes-là. Donc, ne serait-ce que d'énumérer ces thèmes, ça montre les sujets, les préoccupations qui ont été abordées. Alors, les thèmes sont les suivants. L'écoute de tous, donc à commencer bien entendu par les victimes d'abus, puisque ça a été aussi voulu par la SIAZ, etc. Et puis au niveau, on voit que ce n'est pas que chez nous, mais aussi au niveau de l'Église internationale. le visage d'une église synodale, la mission, les pauvres au centre, l'engagement des croyants en politique et pour le bien commun, les migrations, la lutte contre le racisme et la xénophobie, les églises orientales, le chemin de l'unité des chrétiens. Donc ça, c'est la première partie. Une deuxième partie, laïque et famille, les femmes, cléricalisme et machisme, le diaconat des femmes, discrimination et abus, la vie consacrée, diacre et formation, le célibat, les évêques, les abus, et enfin la dernière partie, plus sur la formation, l'écoute, la polygamie, puisque c'était international, donc ça, dans certains peuples, ça pose effectivement des problèmes, et la culture numérique, avec la nécessité d'être présent aussi sur les voies de communication actuelles. Donc le synode a été l'occasion d'un dialogue profond et en vérité, au dire des participants, vraiment c'est ce que j'ai entendu, de vivre une vraie fraternité et une simplicité dans la rencontre. Une même force de la parole de chacun, comme je le disais tout à l'heure, y compris dans les votes. Parallèlement à la démarche synodale, le fait de faire face aux abus dans l'Église a montré que l'Église était capable de regarder ses erreurs et de se remettre en cause. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport après les différentes... pour réintégrer cette démarche de reconnaître ses fautes était indispensable. Et là, ça m'y a fait penser quand tu as dit ça ce matin. Donc, était capable de se remettre en cause, de demander pardon, d'écouter les victimes et de leur venir en aide. Parce qu'on a parlé beaucoup des abus dans l'Église, mais ce n'est pas le seul secteur où il y en a eu. Et c'est quand même l'Église qui a pris l'initiative de dénoncer et de demander pardon et d'accompagner les victimes. Donc, on a remarqué aussi depuis un certain temps que dans les médias aussi, les émissions à caractère religieux et spirituel osent afficher la couleur, beaucoup plus qu'il y a 10-15 ans. Et un soir, on est tombé sur la chaîne CNews, qui n'est pas forcément une chaîne spirituelle, sur une émission qui s'appelle Enquête d'esprit, et qui parlait, où des prêtres étaient invités à parler de leur expérience, et comme c'était autour de la Toussaint, il y avait le recteur du sanctuaire de Notre-Dame de Montlignon. Bon. Mais bon, c'est quand même accessible, c'est des chaînes ouvertes peut-être au public. Et donc, on voit que même sur les radios, on ose plus parler de thèmes religieux qui ne sont plus écartés sous couvert de laïcité, comme ça a pu l'être à une période. Bon, on le voit aussi à travers des films. Bon, en ce moment, il y a le film sur l'abbé Pierre qui sort. Il y en a un spectacle sur Bernadette. On est déjà allé voir le film de Gad Elmaleh, oui, où il parle de sa foi, etc. Oui, mais c'est quand même des films qui peuvent toucher un public au-delà de l'Église elle-même. Il y a aussi des groupes de réflexion et des collectifs qui se mettent en place. Donc, il y a un groupe qui s'appelle Promesses d'Église, qui regroupe 47 associations, des scouts, le CCFD, le Secours catholique, enfin plein, et qui, justement, dont le but est de dessiner le visage de l'Église de demain. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des forces vives et actives qui travaillent à construire cette Église de demain. Il y a eu aussi récemment, puisqu'ils ont eu un rassemblement à Lourdes, la démarche Kérigma, qui a été initiée par les services de catéchèse et du catéchuménat pour réfléchir aux moyens d'annoncer Jésus-Christ aujourd'hui dans le cadre de la nouvelle évangélisation. Donc ils ont eu un rassemblement fin octobre à Lourdes. Donc on voit bien que dans le terme Kérigma, on retrouve le mot Kérigme, et où le souci est effectivement d'annoncer l'essentiel de la foi en Jésus-Christ, hein, que, comme l'ont fait les premiers chrétiens. Dans la mesure où on se retrouve dans un monde païen, finalement, on revient un petit peu à une similitude d'annonce, hein, et que le kérigme, qui est le cœur de notre foi, et c'est effectivement ce qu'il est important d'annoncer, hein. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort pour nos péchés, est ressuscité et nous invite à le suivre. C'est vraiment le cœur de notre foi et qu'il est important d'annoncer. Donc l'Église est en marche, elle se cherche, se met à l'écoute du Saint-Esprit et du monde, et c'est ce qui doit la rendre humble. En écoutant les personnes qui se sont éloignées de la pratique, beaucoup disent qu'ils croient, mais qu'ils ne s'y retrouvent plus dans l'Église. J'avoue que parfois elles n'ont pas beaucoup cherché, et que ça les arrange de rester dans une vision un peu caricaturale qui ne correspond plus à ce qui se vit dans l'Église aujourd'hui. Alors, j'ai sollicité donc quelques personnes qui m'ont partagé leur vision de l'espérance de l'Église aujourd'hui. Alors, je vais vous livrer ça un petit peu comme ça. Personnellement, je pense qu'une Église trop bien installée, ce n'est pas bon. Je pense que tous ces abus dont on parle sont liés au fait que beaucoup sont d'abord, dans une religion qui les accrédite, avant d'être mus par le Christ et son mystère de gloire inépuisable, mais parfois inconfortable. Je pense que l'avenir va nous échapper, d'autant plus que ce monde se trouble de jour en jour davantage. Mais je crois que le Christ sur la croix n'a eu d'autre réponse que la confiance. Il était alors tout sauf installé et pourtant le plus libre de tous les êtres. Notre intelligence, notre vie sont constamment tiraillées entre la discrétion de l'esprit et un malin qui veut nous imposer ses sournoises vérités. Un autre témoignage pour répondre à quelle espérance pour l'Église aujourd'hui ? Espérance d'une Église pauvre, plus évangélique, qui ne prétend pas tout savoir, mais cherche en chacun la présence de Dieu, qui se met à l'écoute, reconnaît en tout homme un frère. L'expérience du synode, cette manière de se mettre ensemble à l'écoute de l'Esprit-Saint, chacun apportant sa part au discernement, est source d'espérance pour notre Église. Les enseignements du pape François sont pour moi source d'espérance. Par exemple, quand il dit « Je vois avec clarté que la chose dont a le plus besoin l'Église aujourd'hui, c'est la capacité de soigner les blessures et de réchauffer le cœur des fidèles. La proximité, la convivialité. Je vois l'Église comme un hôpital de campagne après une bataille. Il est inutile de demander à un blessé grave s'il a du cholestérol ou si son taux de sucre est trop haut. Nous devons soigner les blessures. Ensuite, nous pourrons aborder le reste. Soigner les blessures, soigner les blessures. Il faut commencer par le bas. » Après, donc la citation est finie. « L'Église s'est parfois laissée enfermer dans des petites choses, des petits préceptes. Le plus important est la première annonce, Jésus-Christ t'a sauvé. Les ministres de l'Église doivent avant tout être des ministres de miséricorde. L'espérance de l'Église, c'est Jésus, mort et ressuscité, pour que nous ayons la vie. Peut-elle a-t-elle trop placé son espérance en elle-même ? » Ça, c'est un deuxième témoignage. Un autre témoignage, alors c'est le témoignage d'une personne qui travaille auprès des plus pauvres, puisqu'elle est engagée dans l'association Aux Captifs La Libération à Paris, et donc elle accompagne des travailleurs, ce qu'on appelle les travailleurs du sexe, transgenres et tout ça. Donc elle se pose d'abord la question de la place que nous laissons dans l'Église à ces personnes-là. Quelle place nous laissons dans notre Église, aux plus pauvres, aux personnes qui sont marginalisées dans notre société, les sans-domicile, les personnes en situation de prostitution, des transgenres, des divorcés, etc. Quel accueil à la porte de nos églises? Savons-nous adapter nos célébrations pour qu'ils se sentent à l'aise? Savons-nous les rendre acteurs? Créer des structures adaptées à leur situation. Donc elle donne l'exemple de ce qu'elle vit aux captifs. Aux captifs, nous avons chaque mois des célébrations par thème pour les personnes en souffrance et nous les faisons participer activement dans le contenu, le déroulement. Nous sommes attentives aux non-croyants ou ceux qui ont une autre culture religieuse. Donc là, elle donne des paroles de ces personnes. Donc un Jean qui dit « Nous aussi, c'est notre Église. C'est des moments de bonheur d'être là. » Éric qui dit « Moi aussi, je suis capable de donner mes jambes à ceux qui n'en ont pas. » Une autre, lorsqu'ils étaient à Lourdes, « J'ai découvert le sourire de Marie dans celui des malades. Il me parle du Dieu qui aime. » Une autre personne, « Je suis musulmane. Je n'avais plus envie de vivre. Vous m'avez donné l'amour et j'ai retrouvé le goût de vivre. » Ce sont les priants et les priantes de la rue. Lucien qui dort sous un pont, il dit « Le matin, lorsque je me réveille, le soleil se lève. C'est le bonjour du bon Dieu. » Avec l'association, nous proposons des moments privilégiés à Lourdes où ils peuvent devenir brancardiers auprès des malades. Eux aussi ont le droit de vivre la solidarité. Et avec ces personnes, ils organisent donc des voyages à Rome et aussi des séjours dans des monastères. Et en particulier, donc Solange, là, elle a accompagné des femmes au monastère d'Ancalca. Et donc, si un jour vous tombez sur ce livre, ça s'appelle « De la rue au monastère ». Et c'est donc l'expérience, parce qu'il y a un journaliste qui les a accompagnés. Et il nous parle de l'expérience de ces femmes, donc au sein des monastères d'hommes, et de comment le regard de ces moines sur elles les a complètement retournées. C'est un journaliste qui a écrit ça, je ne sais plus le nom.
Mais ça dure plusieurs jours.
C'était un séjour. Oui, ils sont. Et puis ils renouvellent. Donc comme ils reviennent dans le monastère, le fait que ces femmes, elles voient que les hommes se rappellent d'elles, elles sentent qu'elles existent, mais d'une autre existence que celle qu'elles connaissent tous les jours dans la rue. Et franchement, c'est des témoignages poignants. Donc je continue. À la paroisse, nous avons constitué un groupe sur la synodalité pour leur donner la parole et surtout la retransmettre à l'Église. Ce sont des trésors de témoignages. L'abbé Pierre nous disait de laisser toujours un carreau cassé pour entendre la clameur du cri des pauvres. Beaucoup disent qu'ils trouvent ici le repos, la sécurité, d'être au chaud dans nos églises. L'espérance dans l'Église aujourd'hui ne peut se vivre que par la fraternité, l'accueil des différences, des plus pauvres. Nous sommes le peuple de Dieu, donc tous et toutes, frères et sœurs. Donc voilà en gros ce que j'ai pu récolter de la part de différentes personnes. Alors, par rapport à ce que nous vivons de notre côté, depuis bientôt 3 ans que nous sommes arrivés en Bretagne, on est arrivé dans un contexte post-Covid. Donc on a trouvé une église fatiguée. Et justement, on s'est trouvé en 2021 à l'occasion des réunions dans le cadre du synode et on a rencontré beaucoup de personnes qui étaient découragées, qui faisaient le constat que ce qu'ils avaient connu était en train de s'effondrer. Ils s'étaient engagés dans l'Église, dans différents services, mais s'y étaient épuisés, sans avoir préparé la relève. Le constat de la perte de la pratique, du manque des jeunes, que leurs enfants ne pratiquaient plus, etc., En plus, le prêtre qui résidait sur la paroisse venait de partir pour des raisons de santé. Donc tout ça, on sentait que, si on arrive en Bretagne, ça va être dynamique. Et puis, c'est pas tout à fait ce qu'on a trouvé. Et puis finalement, on a eu la chance d'accueillir un prêtre lazariste polonais qui est arrivé sur la paroisse. Et puis deux autres prêtres qui résident à Dole. Donc ça a redynamisé le fait de la présence des prêtres. Et donc, il y a des petites choses qui progressivement se sont mises en place. Donc, on a la chance du fait de la présence de ce prêtre d'avoir l'Eucharistie au quotidien. Donc, une heure d'adoration a été mise aussi une fois par semaine, avec un temps de confession possible. Un des jeunes prêtres qui est d'origine ivoirienne propose des rencontres de formation théologique une fois par mois, le dimanche après-midi, de 16 à 18 heures. Alors le groupe est constitué de 10 à 15 personnes selon les rencontres. Et dans ce groupe, on trouve aussi bien des personnes âgées que des familles, que des jeunes. À l'occasion de différentes manifestations, on fait beaucoup de repas partagés. Quand il y a quelque chose, chacun vient avec son casse-croûte et puis on met en commun. Et là, dimanche 26, il va y avoir le premier dimanche de la fraternité. Et donc, il est prévu qu'il y ait une fois par mois ces rencontres. On a aussi co-animé un groupe alpha, un parcours alpha. Donc à travers les... Et puis on assure aussi des permanences à l'accueil du presbytère pour recevoir les gens. Et donc à travers tout ça, on sent un besoin de revenir à l'essentiel. On sent que l'Église s'est adaptée au monde parce qu'il y a eu effectivement un moment où on sentait qu'il y avait la peur de perdre des ouailles, mais que pour garder du monde, elle a un peu quand même dilué son message. Et c'est ce qu'on constate lors des demandes de baptême, de mariage. Et alors, à la fois, on sent des gens qui se sont éloignés et puis d'autres qui demandent une certaine rigueur, qui peut faire un petit peu peur aussi. Mais on voit effectivement, comme on le constate toutes, que beaucoup de personnes qui s'adressent à l'Église pour un sacrement sont loin de la foi et que ça fait plus partie des habitudes que d'une démarche vraiment d'une foi personnelle et vivante. Alors comment accueillir sans blesser, tout en annonçant Jésus-Christ ressuscité? Donc on constate aussi que les événements qui rassemblent plus de personnes, en particulier les jeunes, ils conservent un caractère qu'on pourrait un peu qualifier de tradit. C'est-à-dire des pèlerinages, des restaurations de calvaires, où là, on va voir des dizaines de personnes qui sont là ce jour-là, qui quelquefois viennent de loin. Donc il y a une association qu'on a découvert récemment qui s'appelle SOS Calvaire et qui restaure des calvaires. Donc ils ont restauré un calvaire au Mont-Saint-Michel et puis pas longtemps, la semaine dernière, à Plaine Fougère. Donc, à travers tout ça, moi, je me dis qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Et je crois qu'il est important que chacun puisse trouver sa place sans se replier sur soi, ni faire fuir les autres, ni les faire fuir, ni les fuir. Donc, comment construire une église qui n'oublie personne, où les responsables se conforment à l'image de Jésus serviteur, une église qui se laisse déplacer et où chacun est acteur, une église à l'écoute de l'esprit et du monde. Alors, le 1er novembre dernier, donc jour de la Toussaint, l'éditorial de Ouest France, donc c'est quand même un journal de grande... je vais vous lire une partie de cet éditorial, parce que je trouve qu'il était... Voilà, il s'adresse à tous. Et donc, le thème, c'était « Choisir l'espérance ». Donc, il parle au départ de la difficulté de vivre l'espérance dans le monde avec tout ce qu'on entend comme souffrance. Dans beaucoup de pays, des familles attendent dans l'angoisse et les larmes le retour de leurs proches otages, etc. Leur libération ouvrirait une voie d'apaisement. Comment résister à la haine qui traverse les frontières, engendrant la violence? Voici le témoignage bouleversant d'un médecin palestinien né à Gaza. En 2009, il eut l'infinie douleur de perdre 3 filles et 1 nièce lors d'un bombardement israélien. Et voici ce qu'il décida. « Je ne vais pas haïr pour ne jamais être brisé », témoignait-il au Forum Normandie pour la paix. « Je vais continuer à avancer, mais pas par la haine, parce que la haine est comme un virus contagieux, destructeur, qui mène notre monde à sa perte. Je suis convaincu que ce monde peut être un monde libre, juste, en paix et en égalité. C'est notre responsabilité d'entreprendre des actions, de nous rassembler, de faire entendre nos voix en disant « Ma liberté est liée à ta liberté ». Mais pour échapper à la haine, expliquait-il, cherchez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Il n'a pas haï. Il ne s'est pas résigné. Il s'est relevé. L'espérance est un choix. Elle engage notre liberté. Elle entraîne une révolution dans l'existence. Elle consiste à reconnaître ce qui menace, tout en pariant sur ce qui sauve. Elle implique de reconnaître le mal et de miser pourtant sa vie sur la possibilité d'un bien. Et ce faisant, l'espérance rend possible ce bien. On le voit, l'espérance ouvre à la vie. La haine, elle, ne conduit qu'à la mort. Une multitude d'hommes et de femmes ont frayé sans relâche un chemin d'espérance au milieu des souffrances. Témoins de la lumière au milieu des ténèbres de la violence, ce sont eux, ces saints connus ou inconnus, que l'Église célèbre en cette fête de Toussaint. Car voici plus de 2000 ans, de la terre aujourd'hui déchirée d'Israël et de Palestine, Jésus lança cet appel éternel et universel qui est aussi une promesse de consolation, de fraternité et de paix. Bienheureux les doux, ils posséderont la terre. J'ai trouvé que c'était intéressant de ce... cet éditorial, de se dire que c'est quand même dans la presse, c'est un des premiers quotidiens régionaux.
C'est le plus important.
Oui, de voir que, ben voilà, choisir l'espérance et qu'ils n'ont pas peur de...
Et en première page.
Oui, oui, c'est la une, hein. Enfin, c'est sur la première page. Donc, ce n'est pas dans un petit coin au fond qu'il faut aller chercher.
C'est en première page.
Donc, je me dis que c'est... Ben, pour moi, c'est des signes d'espérance, ça. Alors après, il y a aussi, tu m'avais envoyé donc le témoignage de Catherine Caille, là, qui, voilà. Alors moi, je la connais pas, cette personne, mais donc elle parle effectivement, bon, du vécu dans sa paroisse.
Elle a dans sa paroisse, elle s'engage beaucoup.
Oui, oui, elle est très engagée puisqu'elle est à la fois donc elle était en tant qu'ambassadrice pour sa paroisse au niveau
parce
de la.
Elle vient tous les ans passer. À peu près 8-10 jours chez nous, en Ariège. Elle aime beaucoup marcher. Alors, elle s'en va toute seule dans la montagne.
Ouais, donc elle était effectivement ambassadrice donc, pour le synode. Elle fait partie du conseil pastoral paroissial. Elle est engagée au CCFD, dans l'équipe liturgique de sa paroisse et un groupe de Vivre l'Évangile aujourd'hui. Donc, à travers tout ça, elle dit qu'effectivement... à travers les démarches du synode, ce qui était souhaité, c'était une église plus participative, plus collégiale, une église de baptisés. Que de la part des plus jeunes, il y a des demandes au niveau de la liturgie, des célébrations surtout tournées vers la louange. Et donc, ça se pratique sur, sur sa paroisse.
À Saint-Clément.
Donc, pour les familles, alors, soit le, les familles qui sont engagées dans l'accompagnement, baptême, confirmation, etc., bon, elles sont souvent... Le problème des familles, c'est qu'elles sont souvent un peu débordées parce que ben, y a les enfants à gérer, y a, c'est des gens qui sont encore en activité professionnelle, etc. Donc, qui demanderaient d'être plus nombreuses vu l'ampleur de la tâche et de la mission. Elle souligne aussi qu'il y a quand même des tensions au niveau des attentes liturgiques qui ne sont pas, qui vont pas toutes dans le même sens.
Hein. Avec le prêtre.
Que voilà, qu'il y a des, qu'il y a des tensions, même au sein des conseils pastoraux, etc. Au sein du, de ces engagements au CCFD, pareil, parce que ben, entre la politique et la charité, voilà. Donc elle termine en disant qu'elle se pose aussi des questions. Hein. Dans les engagements au service du pauvre, n'y a-t-il pas un risque de réduire la fraternité à une forme d'humanisme ? Et de perdre la dimension transcendantale. À l'opposé, la recherche d'une prière de réconfort, de louange, ne risque-t-elle pas de se traduire par un repli sur soi, un entre-soi, dans une prière pour initier ? Donc, on voit, nous aussi on a constaté ça, qu'il y a à la fois cette recherche entre un monde un peu, comme tu l'as dit aussi, quoi, qui recherche une forme de sécurité qui serait donnée par une règle un peu plus affirmée, où eh ben, on ne se pose pas trop de questions, on avance. Et puis, une autre église qui est beaucoup plus... qui recherche comment rejoindre tout homme, et en particulier les plus pauvres. Donc, c'est... Voilà, c'est un peu tout ça. Donc, comment renouveler le message de l'annonce de l'Évangile aujourd'hui pour qu'il soit entendu, pour lui donner à la fois toute sa puissance, sa transcendance, sa radicalité, son espérance. Voilà comment elle termine. Donc voilà, moi j'ai fait un petit parcours, mais je souhaiterais qu'on puisse échanger, puisque vous vivez certainement tous les uns les autres là des expériences ou d'une église vivante et qui vit de Jésus-Christ et de son esprit. Alors, je n'ai pas parlé de l'expérience qu'on vit au prieuré d'Ardevon. Si vous lisez la presse catholique, vous voyez partout qu'ils demandent des sous. Mais donc, c'est le prieuré qui est la base arrière du Mont-Saint-Michel. Et donc, ils accueillent énormément de groupes, en particulier des scouts, hein, et donc ils aménagent, etc. Et donc nous, on est engagés en tant que bénévoles, c'est-à-dire qu'on y va au moins une fois par mois pour accomplir des petits services. Et c'est vrai qu'à la fois au sein de cette équipe de bénévoles, on se retrouve avec des gens qu'on ne connaissait pas, mais il y a une vraie fraternité, il y a des gens de tous milieux, on a toujours l'Eucharistie le midi, on mange ensemble, et puis on travaille aussi, mais... C'est aussi une petite vie de... Je pense que le mot de fraternité revient beaucoup dans ce qu'on a pu dire, de ce besoin de petites églises, quoi. Il y a la grande église, mais il y a aussi ces petits lieux d'église où l'esprit travaille et touche des personnes. Et je pense que... Pour moi, c'est l'espérance, elle se vit à travers ces petits groupes où effectivement on sent, à travers aussi l'écoute que chacun peut avoir pour l'autre. Enfin, on a vécu des expériences d'entraide, d'attention aux autres et de prier les uns pour les autres. C'est vrai que je crois que c'est ça aussi le visage de l'Église de demain. Et voilà.
Donc sur le... C'est à peu près une quarantaine de bénévoles et il y a un accueil d'à peu près 5000 personnes chaque année.
Oui, parce qu'il y a des gros groupes.
Et ça a commencé seulement il y a 3-4 ans.
Ça a commencé en 2016, en gros.
Oui. Ah, quand même. Enfin, bon, ça, 2000... à 5 km du Mont-Saint-Michel.
Oui, c'est
ouais.
C'est pratique.
Mais il y a beaucoup... Il y a des conférences mais dans tous les sens. Enfin, c'est à la fois spirituel et culturel.
Oui.
C'est-à-dire que il y a eu l'intervention de quelqu'un là, sur, qui avait fait un livre sur Dieu et la science. À côté de ça, il y en a eu sur la sorcellerie, il y en a eu sur la construction du barrage du Mont-Saint-Michel. Enfin,
bah oui, il faut que le lieu vive,
très,
donc.
Très divers, quoi.
Donc voilà. Donc on peut, si.
Partagez vos expériences.
Si vous souhaitez. Ou vos réactions, il y a peut-être des choses.